Belle chanson, très belle chanson du film A Star Is Born. Et évidemment, c'est Lady Gaga qui chante. Valérie Roberts, notre chroniqueur culturel adoré, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec Lady Gaga? Parce que là, on apprend. Là, j'ai l'impression de me transformer un petit peu en Monsieur Gossip.
Oui, mais t'es comme un potineur un peu les vendredis, mais à temps partiel et j'adore ça.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vendredi, on s'en permet un petit peu.
Voilà.
Donc, Bernard qui potine.
Allons-y.
Et là, Lady Gaga, donc, qui serait passée tout proche d'une dépression.
Oui, absolument. Écoute, elle fait la couverture du magazine Allure, qui est un magazine où on parle majoritairement de beauté, de produits de beauté, de ce qu'on peut faire pour être plus belle. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est pas nécessairement les produits de beauté dans l'entrevue qu'ils ont fait avec Lady Gaga. C'est l'idée qu'elle semble surhumaine, cette femme-là, comme s'il n'y avait pas de point de rupture, comme si elle était capable de tout faire. Puis en entrevue avec le Allure, elle s'est rappelée une période de sa vie. On se remet en contexte, là, il y a 2 ans, elle vient de faire la tournée Joanne. Elle fait le spectacle du Super Bowl. Elle fait Coachella, très grand festival de musique aux États-Unis. Et elle tourne aussi A Star Is Born, donc le film, évidemment, où on partage la vedette avec Bradley Cooper. Mm. Puis elle dit, à ce moment-là, là, il y a 2 ans, je vous avertis, j'ai vraiment commencé à pas me sentir bien. J'ai senti que mon corps tombait en panne. Écoute,
elle a failli casser, là.
Hein, vraiment. C'est ça, là. Tu sais, elle dit, dans la tournée Joanne qu'elle faisait, là, elle dit, moi, je tournais sans arrêt depuis que j'avais 22 ans. Sans arrêt. Fait qu'elle dit là, j'ai commencé à réaliser que je faisais un spectacle. Je prenais mon avion. Je partais dans un autre pays ou dans un autre état. Je descendais à l'hôtel. Je me rendais en voiture à l'hôtel. À ça, je dormais. Je me levais. Je faisais un autre spectacle. Je faisais juste ça continuellement. Puis elle dit, à un moment donné, j'ai réalisé que ben, j'avais le vertige, que j'étais complètement épuisée. Puis elle dit, écoute, c'est bizarre.
Elle ne savait plus dans quelle ville elle se réveillait à un moment donné.
Exactement.
Elle était tout mêlée, là. Ouais.
Puis elle expliquait en plus, ce qui est intéressant, je trouve, puis c'est pour ça qu'ils en ont parlé dans le magazine Allure, c'est qu'il a fallu évidemment qu'elle trouve des gens autour d'elle pour pouvoir s'aider. Il fallait qu'elle aille faire appel à son système de soutien. Mais qui est toujours avec elle? Ben, c'est sa maquilleuse et son coiffeur. C'est ça qu'elle a fait. Elle dit, écoute, ma maquilleuse, elle me prenait, j'étais par terre, là, je pleurais en petite boule, j'étais plus capable. Elle me prenait par terre, elle m'assoyait sur la chaise, puis elle me disait, gars, essuie tes larmes, là. Maintenant, je vais te maquiller, puis après ça, ça va bien aller. Son coiffeur, même affaire. Il dit, écoute, là, je te place les cheveux, là, puis à partir du moment où tes cheveux sont placés, là, vas-y.
T'es quelqu'un d'autre
et tu vas être capable de le faire.
Moi, je vais te raconter.
C'est vraiment capoté.
Je vais te raconter, Valérie. Moi, j'étais pas un fan de Lady Gaga. J'aimais pas ces espèces de costumes excentriques. Je trouvais que ça faisait fauner ballonner. Mm. Et franchement, là, je l'ai découvert, Lady Gaga, au Super Bowl.
Ouais.
Je l'ai trouvé extraordinaire. Et après, je suis allé sur Netflix parce que dans les mois qui ont suivi, ils ont déposé sur Netflix une sorte de film documentaire sur sa vie.
Oui.
Sur sa vie au quotidien, 5 pieds 2, hein, c'est le nom.
Exactement.
Bon. Et là, tu l'as vu, évidemment.
Ben oui.
Et là, ce qui m'a frappé, c'est à quel point elle avait du mal. Physique, là. Elle se faisait, on la voit à un moment donné, elle se fait injecter dans le corps un produit, là, je sais pas quoi, là, un analgésique, pour diminuer l'intensité des douleurs, parce qu'elle a mal partout. Et là, je me suis dit, cette fille-là va finir par casser.
Ouais.
Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas elle n'arrête jamais. Puis en même temps, tu la vois, à un moment donné, elle va voir ses parents, puis tout ça, puis c'est là que tu vois que elle a gardé un lien quand même avec ses racines. Donc, elle a encore une stabilité quand même. Là, bon, elle est restée vraie, d'une certaine manière.
Tout à fait.
T'sais. Bon, parce qu'elle est proche de ses parents, de sa grand-maman, elle parle beaucoup de sa grand-mère et tout le reste. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel comme film.
Tu te rappelles, Bernard, dans le film, il y a un moment donné, justement, comme tu dis, là, où elle se fait injecter pour pouvoir réduire ses douleurs, t'sais. Elle est couchée, puis elle pleure, puis tu vois que c'est pas juste, j'ai mal partout, là, mais j'ai mal à l'âme, j'ai mal à mon psychologique, j'ai mal à mon corps.
Puis elle n'est pas capable d'avoir une relation amoureuse qui a de l'allure, hein, parce que justement, elle a une vie de fou. Fait que, quel gars vivrait avec une femme qui dans le fond, couche pas dans la même ville d'un soir à l'autre? Alors, mais écoute, ça me surprend pas que Gaga soit venue proche d'une dépression.
Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Puis tu vois, moi, je suis allée à la première de son spectacle à Las Vegas, là, sa résidence qu'elle fait dans un hôtel de Vegas. Puis tu voyais que là, elle semblait pleinement en contrôle de ce qui se passait. Puis là, elle semblait particulièrement heureuse. Je trouvais plus rayonnante qu'à la tournée précédente, la tournée Joanne, où justement, elle était victime d'épuisement. T'sais. Fait que je pense que en sachant qu'elle s'est rendue à son point de rupture, elle s'est rendue peut-être un peu trop loin pour elle, j'ose espérer qu'elle va pas se rendre, qu'elle va arrêter avant ça. T'sais. Mais c'est sûr que Lady Gaga, c'est quelqu'un qui en donne plus que le client en demande. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, ça se peut que tu deviennes épuisé.
Es-tu en train de me dire, parce que bon, je suis pas un spécialiste comme toi, là, mais dans le fond, elle a un spectacle à elle à Vegas, comme Céline avait un spectacle à elle?
Oh oui, absolument. Elle en a deux même. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a deux spectacles qui sont présentés en alternance. Il y a un spectacle à grand déploiement, classique pop star, des très gros décors. Mm-hmm. C'est clinquant, puis c'est gigantesque. Elle arrive du plafond, c'est fou. Et il y a un autre spectacle, parce que Lady Gaga, c'est une grande fan de jazz. Elle avait fait un disque avec Tony Bennett, d'ailleurs, qui est extraordinaire. Et elle a un spectacle jazz. Fait qu'elle fait l'alternance entre les deux pour pas être à bout de faire la grosse pop star et ou être à bout de faire la jazz woman. Fait qu'elle fait deux spectacles actuellement en résidence à Las Vegas.
Est-ce que c'est vrai que son ambition c'était de remplacer Céline Dion comme la diva numéro un dans le monde?
Ben, je sais que c'est une méga fan de Céline Dion. D'ailleurs, à la première, quand moi je suis allée, Céline Dion était dans la salle à ce moment-là. On la voyait danser, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens sur les chansons de Lady Gaga. Là, c'était une grande... Je pense qu'il y a un lien d'amour réciproque entre les deux.
C'est-à-dire une admiration.
Absolument. J'en suis persuadée par rapport à ce que j'ai entendu en entrevue par la suite et tout. Mais c'est sûr que Lady Gaga, elle a une voix exceptionnelle. On parle toujours justement de ce qu'elle porte, puis on dit que c'est clinquant, puis c'est fou. Mais à la base, cette femme-là a une voix, ma foi, grandiose. Puis tu vois, quand elle fait des projets de jazz, que je t'invite à écouter, Bernard, je pense que tu vas vraiment adorer, c'est là qu'elle met sa voix de l'avant. Puis en spectacle aussi, elle se permet toujours des moments au piano où c'est vraiment la voix qui prend tout son sens.
J'allais dire, elle est quasiment a cappella à ce moment-là.
Elle a vraiment une magnifique voix. Pour ça, je pense qu'elle a une carrière comme celle qu'elle a. Mais il va falloir évidemment, dans le futur, qu'elle fasse attention. T'sais.
Qu'elle prenne soin d'elle.
Absolument.
Exactement.
Ouais.
OK, très bien. Demi Moore. Demi Moore qui sort un livre.
Oui. Un livre qui s'appelle Inside Out. C'est donc un mémoire. C'est sur sa vie. Et il y en a plusieurs qui l'attendaient avec impatience, ce livre-là, parce que c'est une femme qui a eu des histoires de vie assez incroyables quand même. Elle parle de pauvreté émotionnelle, du fait qu'on lui a pas donné beaucoup d'amour dans la vie. Elle a grandi avec un père alcoolique, une mère qui s'en occupait pas particulièrement bien. Elle a parlé évidemment de ses divorces. Elle a parlé de sa...
Elle a eu combien de divorces?
Elle en a eu trois.
Rappelle-nous avec qui. Encore?
Elle en a eu un premier avec Monsieur Moore, qui était son premier mari. Ensuite, il y a eu Bruce Willis, évidemment. C'est pas mal l'union que nous, on se rappelle.
Oui.
Et après ça, il y a eu Ashton Kutcher, qui est un acteur américain et qui est beaucoup plus jeune qu'elle.
C'est ça.
Exactement. C'est ça. Et donc, ça, c'est les trois
Ça avait divorces. Fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y en a qui disaient elle est tombée amoureuse d'un jeune parce qu'elle n'assume pas son âge.
Mais Demi Moore, c'est quelqu'un qui a toujours repoussé ses limites. T'sais, on pense aux films qu'elle a fait dans sa carrière, on pense à G.I. Jane, on pense à tout ce qu'elle a réussi à faire, où elle se repoussait continuellement, ne serait-ce que changer son apparence physique, se raser les cheveux. T'sais, c'est quelqu'un qui... Mais, puis elle dit dans l'entrevue, justement, là, c'est fait pour le Harper's Bazaar, l'entrevue qui est un magazine américain. Elle dit, moi, là, ma vie a toujours été centrée autour de la beauté, centrée autour de mes problèmes, centrée autour de mes divorces, centrée autour de ma dépendance. Elle a eu longtemps un problème de la dépendance à l'alcool. Elle était sobre dans la mi-vingtaine à peu près, elle a arrêté de boire. Elle a recommencé par la suite. Et là, début cinquantaine, elle a arrêté à nouveau. Mais elle fait vraiment des grandes révélations, notamment, tu parlais de sa relation avec Ashton Kutcher, qui était un acteur beaucoup plus jeune. Elle dit, entre autres, qu'elle a fait une fausse couche lorsqu'elle était en relation avec lui, que ça a été excessivement difficile à prendre pour elle, puis qu'elle est complètement à bout des tabloïdes, des potineurs, des potins qui sont constamment à ses trousses, puis qui sont constamment en train de lui rappeler que ça a été la femme de Kutcher ou la femme de Bruce Willis. Elle a dit qu'elle n'a jamais réussi à s'épanouir pleinement, puis qu'elle a une vie très particulière.
Ouais. Mais là, elle fera rien pour faire taire ceux qui disent qu'elle est que sa vie et sa vision d'elle-même est beaucoup trop axée sur son physique, parce que parallèlement à la sortie du livre, elle pose sur la page couverture d'un magazine quand même assez réputé et elle est complètement nue, là.
Ouais, absolument. Mais ça, tu vois, moi, c'est comme si ça me brusquait pas du tout. Considérant le parcours de vie de Demi Moore, considérant...
Ça lui ressemble, tu dis?
Ben oui, ben on pense au film Striptease. Je veux dire, c'est un des grands classiques de Demi Moore. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est devenu un si grand classique? Ben, elle jouait une danseuse nue. Puis malheureusement, Demi Moore, son jeu en tant que tel, c'est une bonne actrice, mais c'est pas non plus une grande actrice.
Mais c'est ça, j'allais te demander.
Oui.
J'allais te demander, Valérie. Est-ce qu'elle est finie? Parce que c'est un peu cru comme question, là, mais tu sais, elle a comme disparu un petit peu de la carte, ouais, là, ces dernières années. Certains pourraient dire, elle sort un livre, puis elle pose nue, ou enfin presque.
Mais ça fait de la presse, hein? Ça
nous fait parler d'elle.
Voilà.
Est-ce qu'elle essaye à travers ça? Est-ce que c'est une opération de relations publiques pour se remettre en piste dans l'industrie cinématographique d'Hollywood?
Bien, évidemment, la sortie de son mémoire, là, de son livre Inside Out, c'est sûr que ça va faire immensément jaser. Par contre, ce serait ridicule de penser que parce qu'on fait jaser, parce qu'elle a eu une vie vraiment très particulière, automatiquement, tu vas faire un film et gagner un Oscar par la suite, évidemment.
Non, mais tu vas peut-être avoir des appels que tu as pu là, pour jouer dans des films.
Bien, après dire, on pense à toi. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, tout à coup, t'es remis de l'avant-plan, évidemment.
Voilà.
Je pense à Cameron Diaz, par exemple, qui, elle, est à la retraite. Elle a dit ouvertement qu'elle veut plus faire de films, mais les producteurs ne pensent pas à elle. Fait qu'elle veut plus en faire, puis ça tombe bien. On va pas l'appeler nécessairement parce qu'on ne pense plus à elle, malheureusement. C'est comme ça que ça marche à Hollywood. Mais Demi Moore, c'est sûr qu'elle se met de l'avant avant ça. Peut-être qu'elle espère, dans les prochaines années, quelque chose de beau, quelque chose qui va lui permettre d'aller chercher des statuettes, puis de revenir de l'avant-plan en tant que grande actrice. Pour l'instant, c'est pas nécessairement la grande actrice qui revient devant nous, c'est la femme qui va dévoiler toute sa vie puis qui pose nue, effectivement.
Très bien. En terminant, le Festival des films de Toronto.
Oui. Hein? Absolument.
Encore beaucoup de vedettes cette année.
Mais ça se termine dimanche, puis je sais pas, Bernard, si t'as suivi ça un peu cette semaine. Moi, je l'ai suivi beaucoup. Écoute, tellement de célébrités sont passées par Toronto cette année. Je ne sais pas si c'est une année record, mais je serais curieuse de le savoir. Écoute, on pense à Jennifer Lopez qui est venue présenter son film. Mm-hmm. On pense à Nicole Kidman. On pense à Bruce Springsteen. On pense à Matt Damon, John Legend, Iggy Pop, Elton John. Bref, cette année, c'est vraiment très particulier ce qui s'est passé à Toronto. Je sais pas pourquoi. Puis, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre, toutes ces nombreuses célébrités, par rapport à ce qu'on leur donne en cadeau quand ils viennent au TIFF. Moi, j'étais comme curieuse de regarder ça. Puis comment ça fonctionne, j'ai appris ça. C'est des grands salons, OK? Donc, il y a des salons qui sont organisés par des grandes marques. Et quand tu te rends dans ces salons-là, on te prend en photo, évidemment. Tu deviens un peu exposé avec la marque. Et en plus de ça, on te remet des cadeaux. Fait que, par exemple, il y a le salon Moët et Chandon, célèbre marque de champagne. Mm-hmm. À chaque fois que tu y allais, let's go, bouteille de champagne, allez, tu pourrais t'en acheter.
Méchante grosse bouteille, d'ailleurs, là.
Méchante grosse bouteille. Ouais, ça, c'est signé, ça va être tiré à l'encan par la suite. Mm. Mais on se fait des bouteilles de champagne. Il y a aussi un autre lounge qui s'appelle Basket Style, qui, eux, offraient, mon Dieu, autant des produits de santé comme un supplément pour soutenir la santé cellulaire, parce que paraîtrait-il que les célébrités connaissent l'importance de la santé cellulaire pour être beau, pour renouveler sa peau. Et donc, on leur a donné ça. On leur a donné une bague en or avec 6 diamants. Parce que, mon Dieu, ils n'ont pas beaucoup de bijoux, ces célébrités. Hein. Ils en ont besoin. Un guide sur la mode, publié par DK Publishing. On leur a donné un crédit. OK, ça, c'est très drôle. Un crédit pour utiliser une plateforme qui s'appelle Turo. C'est une plateforme pour partager des voitures. Et donc, là, mettons, moi, j'ai une très grosse voiture. Et donc, via cette plateforme-là, tu peux prendre ma très grosse voiture.
Parce que la vie des gens riches et célèbres.
C'est quand même fascinant. Mais bref, allez vous amuser à regarder sur Internet. Là. Vous allez voir les cadeaux qu'on a remis aux célébrités du Festival international de films de Toronto. J'aurais aimé ça être invitée.
T'aurais aimé ça être invitée?
J'aurais pas détesté ça, Bernard, je dois te l'avouer.
Mais donne-toi encore un peu de temps.
Je vais travailler là-dessus.
Tu n'es pas encore assez célèbre.
Non, puis surtout, ma carrière cinématographique ne compte pas de films. Et donc, c'est plus difficile pour moi d'aller au TIFF. Mais je vais travailler là-dessus, Marie-Pierre Morin. Je vais l'appeler, là, genre des petits trucs pour faire des films.
On garde espoir.
On garde espoir.
En attendant, tu vas continuer à chroniquer avec nous autres.
Avec grand plaisir.
OK, salut, à vendredi prochain.
Bye-bye.